la parole, de te présenter. Je prie juste pour toi, avec si
plaisir.
Ça joue.
Avec plaisir.
Voilà, Seigneur, on est tous devant toi pour entendre ce que va nous apporter Didier. Et puis, pose ta main sur lui, pose ta main aussi sur nous. Amen. Merci beaucoup pour le fait qu'il soit venu, qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Alors, je vais faire en sorte que rien ne tombe. Voilà. Je me rends compte qu'avec les années, ça s'accumule. Il y a vraiment de tout. Je vous rassure, j'ai pas mis mon petit déjeuner dedans, mais il y a des CD, enfin bon, voilà. C'est un plaisir que d'être avec vous ce matin. Et en fait, c'était certainement que du hasard que tu parles du canton du Jura ce matin.
Ouais.
Complètement, hein, parce que je suis jurassien. La votation, c'est 1974, si je ne m'abuse. Quand même, attention, y a-t-il des jurassiens dans la salle ? Oh, alléluia ! Quelques esprits zélotes dans la salle. Très bien, alors, quelques mots pour me présenter. Je suis marié à Ève depuis 19 ans cette année. Et puis nous avons 5 enfants, la plus grande à 13 ans, la plus jeune à... Oh, bigre. Elle a 4 ans, voilà. Et puis, je suis éducateur social de profession. Et puis, ma femme et moi, après quelques années de pratique professionnelle, on est allé de belles années de pratique professionnelle, parce qu'Antoinette était une de mes formatrices. Voilà, ça c'est dit. Hommage à elle. Quelle patience et quelle foi pour se dire, ce jeune homme-là, il peut devenir un professionnel. Voilà, une femme de foi parmi vous. Et puis, nous sommes allés pendant une année au Paraguay, où nous avons suivi une école de formation de disciples, et puis une école de formation au travail parmi la jeunesse, avec Jeunesse en Mission. Et puis, on a hésité à rester au Paraguay, parce que j'ai un côté latin, et j'étais tellement bien là-bas. Et puis, le Seigneur nous a appelés en Suisse, où on a commencé un programme qui s'appelle Quartier Libre, que vous connaissez. Et puis, voilà, on a repris la direction des Fabricants de Joie quelques années après, en 2006. Et puis, à partir de 2000, ça me semble une éternité aujourd'hui, à partir de 2009, je me suis dit, mais Seigneur, en travaillant dans les quartiers de France, de Belgique, de Suisse, avec des enfants issus de la migration, j'ai tellement de questions. Comment fait-on pour intégrer ces populations qui viennent d'ailleurs, qui ne croient pas la même chose? De qui tout nous sépare? On pense à des frontières sociales, ils n'ont pas la même façon d'entrer en relation. On pense à des frontières culturelles, ils n'ont pas la même façon de vivre, de s'organiser. On pense à des frontières historiques, on a été en guerre avec ces populations-là, il y a longtemps en arrière. Etc. Frontières religieuses, c'est évident. Ils ne croient pas la même chose. Il y a tellement de frontières qui nous séparent d'eux. Comment faire pour que ces gens qui viennent d'un peu partout puissent trouver ici une terre d'accueil? Et puis, en parallèle, on avait lancé ce qu'on appelle les services PAC, l'idée de s'engager dans l'espace public, rejoindre nos concitoyens, aller aussi loin qu'il faut, jusqu'à faire des crêpes dans la rue, pour rejoindre nos concitoyens avec l'Évangile. Et puis, j'avais ces questions en tête, et puis un jour, je dis à Ève, il me semble que c'est juste que je reprenne des études. Et puis, j'ai découvert à l'université de Neuchâtel un master qui avait deux orientations. La première, c'était la migration, et le deuxième, c'était la citoyenneté, comment s'investir dans l'espace public. Je me suis dit, celui-là, il est fait sur mesure pour moi. Alors, j'ai repris ce master-là il y a 5 ans, et mercredi, j'ai défendu mon mémoire de master, et je suis trop content. Alors ça a été 5 années très intéressantes avec une famille de 5 enfants et puis un travail qui me prend à plus de 100%. Mais quand le Seigneur dit quelque chose, suivons-le. Une semaine après avoir pris la décision avec Ève, j'étais par Skype, au travers de l'ordinateur, avec mon responsable international. Et à la fin de l'entretien, il me dit, Didier, j'ai une parole sur le cœur pour toi. Et il ne savait rien. Il me dit, il me semble que c'est le moment pour toi de reprendre des études. J'étais là, Seigneur, je crois que j'aurai besoin d'une confirmation un jour ou l'autre, parce qu'il se pourrait que j'aie un moment de doute dans l'espace de ces 5 ans. Et je vous assure que ce moment n'était pas unique à se retrouver sur des bancs d'université avec des jeunes gens et des gars, ils sont encore imberbes, hein. Ils ont encore rien. Et je passe toute la journée avec ces visages tellement jeunes, tellement lisses, que quand je rentre le soir, je me dis, il s'est passé quoi ? Quand je me regarde dans la glace, je me dis, c'est quoi ces trucs sur les côtés, là ? Et ces barres sur le front ? Voilà. Donc voilà, un petit peu mon parcours. Et puis, j'avais à cœur de parler avec vous de Matthieu. Alors, c'est certainement un des évangiles, c'est l'évangile certainement le plus sévère, le plus dur. C'est un coup de poing à la face. Certains disent que c'est le réquisitoire le plus sévère pour ce qu'on appelle l'homme partagé, pour l'homme qui vit entre deux mondes ou qui est prêt à se soumettre à deux mondes différents. Alors, on va ouvrir nos Bibles, on va se plonger dans le texte, et puis j'espère qu'en sortant de là, on ne soit pas chaos complètement. Mais c'est sûr qu'on le sera un peu. Parce que Matthieu nous partage des choses qui nous défient. Et qui ne nous laisse pas indemne. En tout cas, c'est ma prière. Si on entend la parole de Dieu et qu'on reste indemne, c'est que nos cœurs sont déjà tellement durs, ou tellement usés peut-être, à force d'entendre et d'entendre et d'entendre encore la même parole depuis l'école du dimanche, on a pris peut-être cette habitude de se protéger contre la parole de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Que nos cœurs ne soient pas indifférents à ce qu'il dit. Amen. Alors, j'aimerais qu'on commence par la fin. Parce que généralement, les auteurs, ils terminent par un point d'orgue. Ils disent, si vous ne devez retenir qu'une chose, ce sera celle-ci. On appelle ça une péricope, c'est quelque chose qui a une unité en soi. Et puis, elle se trouve tout à la fin, dans Matthieu 28. On le connaît bien, hein, on va lire à partir du verset 19. Matthieu 28, à partir du verset 19. On pourrait le citer par cœur, on le connaît bien. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et il poursuit. C'est vraiment ses toutes dernières paroles. Et il dit « Et enseignez-leur à ses disciples à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Et je suis avec vous, et je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que notre aventure se termine ici-bas. Ne l'oubliez pas, Jésus est avec vous jusqu'à la fin. Quand on passe dans ces vallées de l'ombre de la mort, quand le goût de la mort est dans nos gorges, n'oublions pas qu'il est avec nous. C'est bien de se le rappeler. Et je pense que Matthieu l'a fait exprès, en disant, je vous ai envoyé quelques baffes, au travers des pages que vous venez de lire. Mais dans tout cela, n'oubliez pas que Jésus, il est avec vous. Il vous a précédé. Il est l'auteur de la foi, nous dit Hébreu. Le mot auteur, ça rend le sens de « il est le pionnier de la foi, celui qui est passé par là avant vous. Il est mort avant vous. Il a eu ce goût de la mort avant vous. » Il est passé par là pour vous dire que quand vous sentez ce goût de la mort, sachez que juste derrière, il y a la résurrection. Et c'est très physique. Ça sera certainement très physique ce matin. On a le sentiment de disparaître quand on suit Matthieu sur le chemin qu'il a parcouru. On a physiquement le sentiment de mourir à nous-mêmes, d'abandonner en nous quelque chose qui ne reviendra jamais, si l'on veut donner une définition à la mort, quelque chose qu'on laisse partir et qui ne reviendra jamais. C'est un deuil qu'on va vivre ce matin. Mais Jésus nous dit, rappelez-vous que dans tout cela, je suis avec vous, je ne vous lâche pas la main. Et juste derrière la mort, il y a la
résurrection.
Merci. En tout cas, jusque-là, vous avez suivi, de toute évidence. C'est bien de se le rappeler. Il nous donne ses paroles comme un testament. C'est les dernières paroles qu'il veut inscrire en nous. Petit sondage. Qui, dans sa version... Hop là, celui-là, il est traître. Hein. Peut-être qu'il m'en veut. Qui, dans sa version, a le mot observer, à la place de garder, d'observer tout ce qui vous a été prescrit. Oui, observer, observer, observer. Chez plusieurs, forcément, c'est le mot observer. C'est un mot très difficile, c'est le mot grec téréo. Et téréo, ça fait penser au même mot hébreu, shamar. Shamar, c'est garde ton frère, suis-je le gardien de mon frère, ou observe le jour du Shabbat. Shamar et téréo, deux langues différentes, mais même sens. Ça a le sens de garder, de prendre soin, d'observer, mais observer dans le sens, et c'est là que j'attire votre attention, de se rendre conforme à, se conformer à, ou en langage plus moderne, s'aligner avec. Quand on entend quelque chose, les évangiles nous disent « mettez-le en pratique ». C'est poieo, c'est faire en sorte que quelque chose que vous avez entendu, vous le rendiez réel, vous en fassiez une réalité. Mais c'est un peu différent. Ici, c'est le mot téréo, c'est observer, c'est se rendre conforme en fonction de ce que l'on vient d'entendre. Il y a une réelle transformation, on s'aligne avec les paroles que Jésus nous a données, ça va ? Et je peux imaginer que pour Matthieu, ça soit la chose la plus importante qu'il ait vécue dans ces 3 années passées avec le Christ, ici-bas. Il a dit, s'il y a bien une chose que vous deviez retenir, c'est qu'à chaque fois que Dieu parle, à chaque fois que vous entendiez la parole de Dieu, faites en sorte que votre vie s'aligne, se rende conforme avec ce que Dieu vient de dire. Sinon, nous dit Jacques, nous sommes fous. C'est comme se regarder dans la glace et aussitôt avoir quitté la glace, on oublie même l'image de notre visage. Rien en nous ne s'imprime, rien en nous ne s'imprime. Si l'on ne fait pas cet effort-là de s'aligner avec la parole de Dieu. Ça va ? C'est une première borne posée. Cette fois-ci, on quitte la fin et on vient au début. On vient de voir les paroles les plus importantes, la leçon la plus importante de Matthieu, très certainement. Et cette fois-ci, j'aimerais qu'on revienne tout au début. Les commentateurs disent de Matthieu que c'est le livre de la transition entre l'Ancien Testament et cette nouvelle qui fait suite à l'Ancien Testament qu'on appelle le Nouveau Testament. Cette bonne nouvelle enfin dévoilée qu'on découvre avec Jésus. Et c'est ce qu'il dit. Matthieu cite Jésus et il y a ce premier passage, chapitre 5, on connaît ça, on est sur une montagne, Jésus enseigne et il passe son temps, c'est presque tout un chapitre, à dire « Vous avez entendu dans les prophètes, dans la Torah, qu'il était dit « Tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis ». Et Matthieu, il commence chapitre 5 avec ça. Parce que Matthieu, c'est vraiment la transition entre ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament et ce que Jésus en fait. Et là, il y a un passage intéressant. Jésus, il va plus loin. Il dit, c'est juste aucune de ces paroles, si vous prenez le chapitre 5, verset 17, si vous êtes d'accord de faire quelques sauts de puce avec moi dans ces premiers chapitres de Matthieu. Verset 17, chapitre 5, il dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus dit « Les paroles que Dieu nous a données, elles sont faites pour être vécues. » Et là, Matthieu, il nous dit deux choses. Si on fait un petit saut de puce, chapitre 7, cette fois-ci, versets 13 et 14. Il nous dit ce que Jésus est en train de nous dire là, ce qu'il vient de dire dans ses premiers chapitres. Les paroles de Dieu dans l'Ancien Testament, elles sont à vivre, elles sont à incarner. Et il dit cette réalité-là, elle est difficile à trouver. Je vous préviens déjà, elle sera difficile à trouver. C'est comme quand vous vous baladez en forêt, que vous avez le croisement devant vos yeux et vous savez que ce n'est pas là qu'il faut aller, mais vous n'avez pas vu le petit chemin de traverse. Il était un peu caché par les feuillages. On appelle ça le chemin étroit. Vous voyez bien le chemin large, parce que derrière vous, les gens vous dépassent en disant « Eh, mais c'est là, mais poussez-vous, vous êtes dans le chemin, c'est là qu'il faut aller arrêter de réfléchir. » Et vous vous dites « Non, mais moi, il me semble que c'était un petit chemin avant que je devais prendre. » Le chemin étroit, Jésus nous dit, il est difficile à trouver. Il faut qu'on garde ça en tête. Cette réalité dont nous parle Jésus, elle est difficile à trouver. Et même que certains, si vous lisez un tout petit peu plus loin, toujours dans ce même chapitre 7, ça va loin, hein, lisons à partir du verset 15, juste pour se donner une idée. Il dit, ou même 14, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. » Il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Jésus dit, cette réalité dont j'aimerais vous parler et dont Matthieu est très conscient, c'est pour ça qu'il nous raconte ces histoires. C'est pour ça qu'au travers de ces histoires, c'est Matthieu qu'on découvre. Il est en train de nous dire, cette réalité dont parle Jésus, elle est difficile à trouver. Mais en plus, parce que c'est difficile, certains limitent, font semblant d'eux. Ils font comme s'ils avaient trouvé, mais en réalité, à l'intérieur, ce sont des loups. Et non seulement ils n'ont rien trouvé, mais en eux, tout s'est gâté. La parole de Dieu qui aurait dû être cette source de vie à l'intérieur, cette transformation du dedans, elle a pourri. Elle est devenue comme de l'ordure. C'est ce que disait Paul. Je regarde tout ce que j'ai vécu comme si c'était de la boue. Des déchets humains, nous dit le texte. C'est fort hein, comme expression. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Mais en nous, elle a ce goût de pourriture. Quelque chose de consommé dont on ne veut plus. Quelque chose qu'on ne devrait pas garder en nous. Et pourtant, on le garde. Et c'est bien de cela dont parle Matthieu. Il nous dit... C'est un réquisitoire sévère contre l'homme partagé. Celui qui veut suivre ces paroles que nous a données Dieu, mais en même temps à l'intérieur, il a l'impression d'être une pourriture sur pied, un déchet, quelque chose qui est destiné à être évacué, mais qu'on garde à l'intérieur et qui sent affreusement mauvais. Et là, on se dit, mais il va nous emmener où, Matthieu ? Quelle expérience il a fait avec Jésus pour parler en termes si forts. Et pourtant, il cherche exactement comme nous tout ce qu'on a chanté ce matin. Il a dit, en Dieu, on l'a chanté, j'ai tout. Et tu vas aussi me donner la puissance pour vaincre la chair. Et on a chanté aussi, tu es ma vie. C'est ça que Dieu nous promet. Et c'est ça l'expérience que fait Matthieu. Un homme partagé, un homme qui, au lieu d'avoir la vie à l'intérieur, se sent comme une pourriture sur pied. Ce que j'aimerais souligner dans cette première partie, c'est que la parole de Dieu, elle doit pénétrer en nous. Elle doit toucher nos cœurs. Elle doit venir à l'intérieur. On peut en avoir les signes extérieurs, mais ignorer totalement la réalité intérieure. C'est sûr que vous et moi, on a fait cette expérience, un jour ou l'autre. On s'est dit, comment ça se fait que la Bible et Paul et Matthieu, ils sont tellement enthousiastes en entendant Jésus. Ils redonnent avec tellement d'énergie, de vie, de peps. Il y a cet élan quand vous lisez les lettres de Paul. C'est comme un adolescent qui dit, waouh, j'ai découvert un monde nouveau. Chapitre 8 des Romains. Tout est passé, c'est une créature nouvelle, je vis par l'esprit. Et pourtant, au chapitre 7 des Romains, vous avez l'impression que c'est un homme perdu qui vous parle. En l'espace d'un chapitre, d'un verset, il y a une transformation. Tout l'évangile nous parle de cette transformation intérieure. Mais avant d'y arriver, j'aimerais qu'on puisse regarder avec Matthieu une des histoires les plus troublantes du Nouveau Testament. Une de ces choses qui nous laisse comme une arête ici au travers de la gorge. Et j'aimerais qu'on reste dans ce chapitre 7 et puis qu'on prenne la partie du verset 22. Matthieu chapitre 7 verset 22. On va continuer à faire des petits sauts de puce. C'est juste pour se donner un goût et se poser sur le fondement de la parole. et laisser notre esprit être interpellé.
Alors, chapitre 7, verset 22. Pensez que c'est toujours Matthieu qui nous donne ces histoires. Il est en train de parler de lui, là. « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur !» Point d'exclamation. « N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons chassé des démons ? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, dit Jésus, je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et là, on en perd son latin, pour peu qu'on l'ait appris. C'est moins pire quand on n'a jamais appris. On perd quelque chose qu'on n'a jamais eu. Mais là, on se dit, Matthieu, où est-ce que tu nous mènes en nous rappelant ces paroles de Jésus-là ? Elles ne font aucun sens dans notre expérience commune de ce que c'est que d'être un chrétien. Et quand même, si j'ai fait des miracles, c'est que tu étais avec moi. On a même fait beaucoup de miracles, c'était pas un peu. On a même chassé des démons. On avait quand même l'autorité du nom de Christ. On a même prophétisé. Alors, on pourrait imaginer encore que c'est de faux prophètes. Mais quand on guérit des gens, qu'on chasse des démons, le doute est plus permis. Comment tu peux nous dire aujourd'hui que tu ne nous connais pas ? Et là, Matthieu, il suit toujours la même logique. Il dit ceci, j'utilise pas n'importe quel verbe pour dire connaître. J'utilise le mot qui donne l'idée de cette relation intime d'un homme avec une femme. Ce que Jésus dit là, c'est « Je ne suis jamais entré en vous ». Mais comment c'est possible à la fois de faire des miracles et finalement de ne jamais laisser le Verbe, le Christ, la parole de Dieu incarnée en nous, est-ce possible ? Eh bien oui. Et c'est tout le drame de nos propres vies. Et c'était tout le drame des pharisiens que Matthieu avait en face de lui, des hommes fantastiques. Des hommes tellement proches du peuple, ces pharisiens. Des hommes même qu'on avait écorchés vifs parce qu'on les avait trouvés chez eux en train de faire Shabbat avec leur famille. Des hommes qu'on avait torturés sur la place publique parce qu'ils voulaient rester fidèles à la parole de Dieu. Des hommes qui étaient tellement proches du peuple qu'ils ont ouvert des synagogues pour que jamais le peuple ne manque de la parole de Dieu. Des hommes qui faisaient de bonnes œuvres envers le peuple. Des hommes remarquables et pourtant des hommes partagés. Et l'histoire garde d'eux ce partage de l'âme, l'apparence extérieure et l'absence de cette réalité à l'intérieur. C'est tout le drame de Matthieu. Mais c'est toute la force de son message. Vous pouvez, et je peux, Didier, être chrétien, bien prêché, ou plus ou moins mal prêché, faire des miracles et prophétiser, et ne jamais avoir laissé la parole de Dieu pénétrer en moi et changer mon cœur, et changer mon espace privé. Tu peux changer l'extérieur, ma façon de prêcher, ma façon de prier, ma façon d'être en relation avec mes frères et mes sœurs, mais dans mon espace privé, tu n'entres pas. Pour mille bonnes raisons, parce que ça fait trop mal, parce que si j'abandonne ça, j'ai vraiment l'impression de mourir. Qui je serai si j'abandonne mon sentiment de colère ? Qui je serai si j'abandonne mes pratiques sexuelles ? Qui je serai si j'abandonnais ma haine ? Qui je serais si j'abandonnais ma peur ? Qui je serais demain si j'abandonnais le mal dont j'ai tellement l'habitude en moi ? Jésus, merci pour le peu que tu m'as donné, mais tu n'es pas mon tout. Voyez où je veux en venir ? Et Matthieu, il était là-dedans. Il était là-dedans, il a dit « Tereo ». Quand vous entendez la parole de Dieu, alignez pas juste vos attitudes. Didier, n'aligne pas juste ta façon de prêcher ou de prier. Aligne toute ta vie. C'est une métanoïa, un changement complet de l'être. un changement entier de l'être. Et c'est pour ça que Matthieu, il le dit, chapitre 5, alors qu'il a dit tellement de choses importantes, il a dit toutes les paroles de l'Ancien Testament, on va les vivre, en faire une réalité, s'aligner avec. Et il termine ce chapitre 5 en disant, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et dans nos têtes, et c'est certainement un des drames de nos vies, c'est que le mot « parfait », il a toujours un sens moral. Depuis le jardin d'Éden, on lutte avec ça. Mais comment c'est possible? On veut toujours goûter à ce fruit défendu qui va nous dire de façon autonome ce qui est bien et ce qui est mal pour mener nos vies. Nous, on veut savoir ce que ça veut dire qu'être moralement parfait pour bien conduire sa vie. Mais la morale, c'est à peu près tout ce qui nous sépare du monde autour de nous. Nous, on ne couche pas avant le mariage. Nous, on n'avorte pas. Et nous, on ne fume pas. Et nous, on divorce très peu. Ça change les modes. Si c'est la seule chose qui nous sépare du monde, alors c'est que on ressemble déjà aux pharisiens. Soyez parfait. Le mot parfait, dans le Nouveau Testament, ça a souvent deux significations. La première, c'est téléo, pas téréo, téléo, ou alors pléro. Les deux sens nous donnent le goût d'être complet, être parfait. C'est soit un verre qui est complètement plein, à qui il ne manque rien. Être parfait comme notre Père Céleste est parfait, ça n'a rien à voir avec l'aspect moral. C'est dire tout ce que Dieu a, prends-le. Éphésiens nous dira, tout ce que Dieu a au ciel pour toi, ses bonnes œuvres, cette nouvelle vie, ce vêtement, nous dit 2 Corinthiens, qui va tomber sur toi, prends-le complètement. Pas à moitié, ne sois pas partagé. Prends tout ce que Dieu a pour toi. Laisse tomber à l'intérieur ce qui te tue et ce qui te défigure dedans. Ce qui fait que tu es un homme et une femme partagés, laisse-le tomber. Ce sentiment de misère-là, Matthieu, il l'a eu. Sentir sa misère à l'intérieur, c'est cette misère qu'on sent. Quand Didier se balade, il se balade pas en fait, c'était dans un camp avec un objectif, on devait retrouver son chemin, et je me suis perdu. Et il y a une colère terrible qui monte en moi quand je me perds. Et là, je crie, parce que je suis tout seul, hein, personne pour me voir, tous les noms d'oiseaux que je connais. Mais je me fâche d'une colère qui m'étonne moi-même. Elle était tempétueuse, cette colère-là. Et je crie à Dieu, « J'en ai marre, espèce de... » Et je m'étonne moi-même de la violence de mes propos. Et là, Dieu, il me parle. Et c'est un de ces moments où on sent sa misère profondément. Il me dit, qu'est-ce qui fait que tu te perds? Je te rappelle qu'en Suisse, c'est vraiment difficile de se perdre. On retrouve forcément toujours quelqu'un ou un chemin. C'est pas le Canada, Didier. Mais je suis perdu! Et puis alors? J'aime pas! Pour quelle raison? Mais parce que je me sens impuissant! Quand je suis dans un coin, acculé dans un coin, je déteste! Je veux pas! Je veux pas me retrouver dans cette situation où je suis impuissant! Et ça m'est sorti comme une évidence. Un de ces moments où la lumière se fait à l'intérieur. Jésus est la lumière du monde, mais les hommes l'ont refusée. Et tout d'un coup, elle vous touche au fond de vous-même et vous avez ce sentiment de misère. Et à ce moment-là, soit on dit, non, non, c'est pas si grave, écoute, je me suis emporté, mais je maîtrise. Mon péché, je le gère, je le domestique. Je suis un pro, ça fait longtemps que je fais ça. Mais le péché, on sait, vous et moi, on ne le domestique pas, on ne le maîtrise pas, on ne le circonscrit pas. On le tue. On le laisse mourir, pour dire plus justement. On le laisse mourir à la croix. Ce sentiment de misère, on lutte contre lui. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, ceux qui peuvent faire tout seuls, parce qu'ils savent ce qui est bien et ce qui est mal pour conduire leur vie. Et l'humilité, c'est dire, voilà comme je suis, sans phare et sans éclat. Et je sais bien le mal qui m'habite. Je vais arrêter de jouer. Qu'est-ce qui a fait que cet homme-là, il puisse dire, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, heureux ceux qui savent ce qui leur manque, parce qu'ils ne sont pas parfaits, parce qu'ils ne sont pas complets. Et ce même Matthieu au chapitre 9, il dit, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, c'est les malades, ceux qui savent qu'à l'intérieur, ils sont incurables. Matthieu, c'était un péager. Il travaillait pour un fermier général et il récoltait l'impôt. Une honte, il travaillait pour les Romains. Pourquoi un juif choisirait cette voie-là? Il faut être fou. Tu sais que si tu travailles pour l'occupant, tu seras coupé de ta propre famille. Tu seras coupé de tous ceux qui t'ont enseigné. Depuis ton enfance, c'est comme si quelqu'un choisissait de se couper de vous. Mais qu'il a fait quelque chose de tellement mal que quand on le croise dans la rue, on change de trottoir et on crache par terre. Et on le maudit en public en disant « c'est un païen, je peux le traiter encore pire qu'un païen ». Mais qu'est-ce qui amène un homme à se couper même de sa vie passée? J'ose croire que c'était un homme pragmatique. Il a dit « en période troublée, occupation, il faut bien gagner sa croûte. Il faut trouver un job qui est sûr. » Un job où ma famille ou mes parents, ils manqueront de rien. Et c'était bien payé. Il avait un revenu confortable. C'était un homme important qui pouvait se permettre d'inviter Jésus, les disciples, tout le quartier, les péagers, les gens de mauvaise vie. Parce qu'il avait, tourné dans ce monde-là. Et c'est une spirale descendante. Tous ses amis, c'était des gens peu recommandables. Mais comme ça se passe quand on est exclu de son milieu premier. On sombre. Et Matthieu, il a sombré. Matthieu, il voulait assurer sa croûte. Il voulait soulager ses inquiétudes concernant l'avenir. Et qu'est-ce qu'il nous dit Matthieu dans ses premiers chapitres de son évangile? Si on regarde ensemble, toujours dans les mêmes premiers chapitres, si vous prenez le chapitre 6, ça parle, ou chapitre 7, ça parle du jugement. Ne jugez pas. Qu'est-ce qui s'est passé chez un homme qui s'est vu exclu de sa propre communauté, qui s'est fait haïr par les siens et qui l'a haï en retour, cordialement, tellement il avait mal à l'intérieur? Le jugement, il en connaissait un rayon. C'était un expert du jugement. Il l'a subi et il l'a fait subir. Et pourtant cet homme, il dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Et qu'est-ce qu'il dit des inquiétudes, chapitre 6? Il dit, mais Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe. Vous n'avez pas à vous soucier du lendemain comme moi je l'ai fait avant, en choisissant un job bien payé mais qui a tué mon âme. Et il en vient à cette phrase incroyable, fin du chapitre 6, parce que nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, au verset 24, chapitre 6, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez pas servir Dieu et... Ah, vous ne m'avez plus suivi. Dieu et Mammon. Qu'est-ce que veut dire Mammon? J'ai trouvé ça dans le dictionnaire critique de théologie. Il disait Mammon, c'est la même racine que le mot Amen, qui veut dire ça, c'est sûr. On peut s'appuyer dessus. Ce n'est pas très confortable, mais c'est suffisamment solide pour que je puisse m'appuyer, y accorder toute ma confiance. C'est sûr. Et Matthieu, il dit, j'ai choisi un job qui m'a tué, parce que je savais que ça, ça soulagerait mes inquiétudes, que je ne manquerais pas d'argent. La haine, la rancune, ça c'est solide. Ça, ça vous fait exister, mais ça vous tue aussi. Ça fait que votre âme, elle est partagée et qu'elle pourrit sur pied. Nous ne pouvons pas vivre partagé. Un jour ou l'autre, on en viendra à haïr Dieu lui-même. Un jour, nous dit Matthieu, j'en suis venu à haïr Dieu lui-même parce que ses représentants sur terre, ils m'ont tellement déçu, ils m'ont jugé, ils m'ont critiqué, ils m'ont craché à la face. Et moi, je les ai maudits cordialement. Et je suis mort à l'intérieur. J'avais plus aucune sensibilité. J'étais comme ce serviteur impitoyable à qui on a pardonné, on a rendu la dette. Et lui qui va étrangler celui qui lui doit de l'argent. Ou alors ce jeune homme riche qui fait tout juste, mais dont le cœur est attaché à ses richesses. C'est toutes des histoires de Matthieu. Toute l'histoire d'un homme dont le cœur s'est éteint, qui ne sent plus sa misère. Et s'il ne sent plus sa misère, il n'a plus besoin de la grâce. Pourquoi avoir besoin de la grâce si je ne reconnais pas que je manque de quelque chose? Si je me sens complet en moi-même? Parce que rempli par plein de choses qui vont me tuer à terme. Ce chapitre 7, il termine. Les gens, ils n'ont rien compris. Ils ont écouté Jésus pendant des heures au soleil. Et Jésus, il les a percutés. Et il a percuté Matthieu, j'en suis persuadé à ce moment-là. Et Matthieu, il termine en disant, ce chapitre 7, il dit, verset 28, « Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules, pour dire qu'il y avait du monde, restèrent frappés, à mon avis au sens propre, ils se sont pris une claque, comme nous ce matin, de son enseignement. » Le mot enseignement, il est intéressant parce que ça vient du mot enseigne, qui montre. Car il enseignait, car il montrait, il démontrait, comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme le scribe. Et non pas comme leur scribe. Qu'est-ce que l'autorité? Sinon la chose qu'on vous reconnaît. Parce que vous avez quelque chose, une expérience de vie, un savoir, une force que les autres n'ont pas. On vous la reconnaît. L'autorité, elle se base sur la reconnaissance des autres, de quelque chose qui en vous fait une différence par rapport aux autres. Et Jésus, il enseignait avec autorité. Pour quelle raison? Parce que tout ce que Matthieu a ressorti de l'enseignement de Jésus pour nous dire, pour nous donner ce message-là, il a commencé par ça, son évangile. Si on repart vraiment cette fois-ci, presque tout au début, il y a bien sûr la prédication de Jean-Baptiste, l'image et la naissance de Jésus, la prédication de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus. Et juste après, le Saint-Esprit l'emmène dans l'épreuve. Et qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on appelle la tentation de Jésus? C'est un peu faux de le traduire par tentation de Jésus, c'est plutôt l'entrée dans l'épreuve. Parce qu'il n'y avait rien en Jésus qui puisse être tenté. Mais c'est l'entrée dans l'épreuve. Quelquefois, Dieu nous fait entrer dans l'épreuve. Quelquefois, il permet qu'on se perde en pleine nature. D'autres fois, que quelqu'un vous dise, voilà ce que je vois en toi, et ça, c'est pas beau. Ces moments où soit on se défend parce qu'on ne veut pas voir sa misère, soit on dit, ok, mais qu'est-ce que ça coûte ce ok. Vous avez l'impression de mourir à l'intérieur. Et dans ces moments-là, on doit se rappeler que Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de cette épreuve-là. Je suis avec vous. Même si tu as le sentiment de mourir, parce que ta colère, elle t'envahit et ta femme, elle n'en peut plus. Et toi, tu dis, ok, j'ai un problème. Rappelez-vous quel sentiment vous avez à ce moment-là. Est-ce que ça ne ressemble pas à de la mort? Oh que oui. Vous l'avez comme ça, qui descend. Et vous avez l'impression que ça touche votre cœur. Et il y a un froid sidéral à l'intérieur. Et dans ce moment-là, on doit se rappeler que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et que derrière ce goût de mort, il y a un goût éternel de résurrection. La vie naît de cette mort-là. Qu'est-ce que le baptême sinon ce passage par la mort en disant « Oui, j'en fais mon principe de vie ». Et qu'est-ce qu'on fait nous? On passe notre temps à fuir notre misère, la mort. Et en même temps, la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on s'éloigne autant de la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert quand Jésus entre dans l'épreuve? Il est tenté sur trois choses. La première, c'est qu'est-ce que tu vas manger demain? Ou plutôt, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? T'as faim, non? Tu vis le manque, n'est-ce pas? Après 40 jours de jeûne, on peut imaginer que Jésus, il a faim. Tu te dis, ça creuse, hein? Alors vas-y, mange. Fais toi-même le miracle. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toutes ces paroles qui viennent de la bouche de Dieu. Encore une fois, les paroles qui viennent de la bouche de Dieu, elles me sont aussi nécessaires que le pain. Elles me font vivre, ou alors elles me font mourir. Et il dit, il n'y a qu'un seul pourvoyeur, qu'une personne qui peut me nourrir vraiment, c'est Dieu. Et là, Jésus renonce à l'idole qui a nourri Matthieu pendant des années. J'ai tellement peur de manquer de pain. Je préfère prendre un job ignoble où je me corromps moi-même plutôt que de vivre comme un pauvre ou de vivre le manque. Jésus, il a choisi son maître. La deuxième, c'est « Viens, je te transporte sur le temple. Là-haut, tu auras le parvis des païens, le parvis des femmes, le parvis des hommes. » Imagine, tu sautes en bas et les anges viennent et te portent sur leurs mains. Quelle image magnifique de la révélation du Fils de l'homme et du Fils de Dieu, du Messie. Imagine, les gens, ils vont être là, oh wow, et ils vont se prosterner devant toi. Et ta mission, elle sera réalisée. Les gens, ils seront forcés de croire. Les femmes seront forcées de croire devant tellement de splendeur. Imagine la scène, Jésus. Ça t'évitera de souffrir. Ça t'évitera de passer par la croix. Ça t'évitera l'épreuve. C'est mon offre. À prendre ou à laisser. Et Jésus dit non. Le sens de ma vie, sa signification, mais aussi sa direction, le pourquoi je suis ici-bas. Je n'ai qu'un prescripteur. Il n'y a qu'une personne qui peut le définir. C'est Dieu. Ce n'est pas mon statut social. Ce n'est pas mon métier. Ce n'est pas mes mérites. Rien de tout ça. Le seul qui donne vraiment du sens à ma vie, à comprendre sa signification, le pourquoi je vis, mais aussi sa direction, là où je vais, ce que je vais faire, c'est Dieu. Et l'ennemi lui dit, ok, dernier test, si tu te prosternes devant moi, je te donne tout. Tous les royaumes de la terre, tout le pourquoi tu es venu, je te donne tout. Et Jésus dit, non, je n'ai un maître. Je n'ai qu'un maître. C'est Dieu. Je n'adore personne d'autre. Je n'adore aucune autre idole. Et qu'est-ce qu'une idole? Sinon un maître qu'on s'est choisi, à l'exception de Dieu, et avec lequel on entre en négociation. Qu'est-ce qu'on dit? On dit à sa peur, garde-moi en sécurité. Tu m'éviteras de faire des bêtises. J'ai vécu toute mon adolescence et mes jeunes années d'adulte avec la peur au ventre, la peur de faire une erreur, la peur de ce que les autres allaient dire, la peur de perdre mon image de gentil garçon. J'ai vécu avec ça jusqu'à l'âge de 20 ans. Et un soir, Dieu m'a dit, est-ce que tu vas continuer à garder cette idole, c'est-à-dire celle qui te garde en sécurité? Ou est-ce que tu vas me choisir, moi? Et là, vous avez l'impression que, mais moi, si je renonce à ma peur, je dois renoncer à l'image même que je donne et la sécurité qu'elle m'apporte. Et Dieu dit, tu ne peux pas servir de maître parce qu'un jour, tu en viendras à me haïr, moi. Tu ne peux pas être un homme partagé. Nos idoles, elles ne nous maîtrisent pas. C'est nous qui choisissons nos maîtres. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu, Jésus a tout accompli à la croix. Et il nous a libérés de toute la puissance du mal dans les lieux célestes, nous dit Éphésiens. Il a mis tout sous ses pieds. Rien ne lui résiste. Au nom de Jésus, nous sommes libres de nos idoles. Jésus dit, je choisis. Matthieu a dit, j'ai choisi. Et toute la puissance du mal, elle nous quitte. Nous accueillons en nous des morts vivants que nous infusons avec un cathéter pour que ces morts vivants ne nous laissent pas, parce que j'en ai besoin, ma colère. J'ai besoin de ma colère parce que sinon je me sens misérable quand je suis bloqué, coincé, quand je ne sais pas quoi faire. Alors je la garde. Et Jésus dit, tu ne peux pas vivre avec deux maîtres parce qu'un jour tu en viendras à me haïr. La bonne nouvelle, c'est que on doit les laisser mourir. Quand Dieu nous interpelle, et il le fait ce matin, laissons mourir nos idoles, ces maîtres que l'on s'est choisis pour X raisons, qui sont bonnes, mais qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Que Dieu nous vienne en aide, que sa parole éclaire nos cœurs, révèle en nous ces idoles, et le jour venu, que nous sachions y renoncer, faire le deuil, laisser partir, mourir, avec toute la peur que ça génère, pour ressusciter avec le Christ. Et ça nous donne une force de vie à l'intérieur, extraordinaire. C'est toute la force d'un Matthieu qui dit, regardez qui j'étais, et regardez ce que Jésus a fait de moi. Regardez, dit Paul, ce que j'étais, et regardez ce que Dieu a fait de moi. C'est toute la force du ciel qui naît en nous. Que Dieu nous vienne en aide, qui nous conserve dans l'espérance, et qui nous apprenne à mourir, et à ressusciter dans le nom de Jésus. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci pour l'exemple de ces hommes et de ces femmes qui nous ont précédés, ces héros de la foi, qui étaient des misérables, mais qui ont su le reconnaître, comme Paul à la fin du chapitre 7 des Romains qui dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Cette reconnaissance de notre misère, cette humilité, reconnaître qui l'on est, on en a besoin. Mais toutes les cellules de notre corps luttent contre ce sentiment de misère. Apprends-nous à être des pauvres en esprit de ceux qui reconnaissent leur manque. La pauvreté, c'est reconnaître son manque. Pour accueillir ta grâce, grâce soit rendue à Dieu. Je ne suis plus sous la condamnation, mais je vis par l'Esprit. Pour qu'on goûte, Seigneur, à ton tout ce que tu as pour nous, qu'on soit complet comme notre Père céleste est complet. Aide-nous, viens-nous en aide, Saint-Esprit. Viens-nous en aide. Fais-nous vivre cette expérience que Jésus a vécue, que ta parole pénètre en nous et nous libère à l'intérieur. Dans le nom de Jésus. Amen.